La météo, bonjour Chloé de Sénard.
Bonjour.
Une météo plutôt douce mais nuageuse.
Le temps est calme en ce début de semaine, notamment dans le nord du pays, du brouillard et de la brume des pays de la Loire à la Normandie. En revanche, dans le sud, c'est plus instable, de bonnes averses près de la Méditerranée. Côté température, 13 degrés à Strasbourg, 10 à Nantes, 14 à Montpellier et 9 à Lille. Cet après-midi, les températures sont homogènes partout sur le territoire, autour de 20 degrés en moyenne. Et attention ce soir au risque d'orage dans les Pyrénées.
Merci Chloé. La matinale revient demain dès 6h avec Stéphane Pedrazzi. Très belle journée à l'écoute de Radio Classique. Dans 3 minutes, Franck Ferrand raconte. Bonjour Franck.
Bonjour mon cher Marc.
On part à l'aventure aujourd'hui avec
oui.
vous.
Oui, c'est une belle aventure. On est au milieu du XVIe siècle et on peut dire qu'un Pizarro en cache un autre. C'est son frère Gonzalo Pizarro que nous allons suivre sur l'Amazon.
Eh bien écoutez, on prépare notre matériel et on arrive donc juste après le flash de 9h sur Radio Classique.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Et à 9h sur Radio Classique, les dernières informations avec vous, Chloé Sénard.
12 agents de l'ambassade de France en Algérie doivent quitter le territoire. Décision d'Alger après l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion sans lien avec la procédure judiciaire en cours, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Les ministres Catherine Vautrin et Elisabeth Borne visées par une plainte. En tout, 20 plaignants se sont regroupés pour déposer une plainte devant la Cour de justice de la République, selon le journal Le Monde. Certains dénoncent le harcèlement qu'ils subissent au sein de l'hôpital, d'autres le suicide de leurs proches soignants. Un bombardement qualifié d'horrible par Donald Trump. Le ministre britannique Keir Starmer se dit, lui, consterné. Les réactions se multiplient après l'attaque russe en Ukraine qui a fait au moins 34 morts à Soumy dans le nord-est du pays. Cette attaque intervient 2 jours après la visite d'un haut responsable américain en Russie. Le président chinois en tournée dans l'Asie du Sud-Est, Xi Jinping, est arrivé aujourd'hui au Vietnam pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'année. Il ira ensuite en Malaisie et au Cambodge pour tenter de resserrer ses liens commerciaux au niveau régional, alors que les droits de douane décrétés par les États-Unis s'élèvent à 145% sur les produits chinois. Le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa est mort hier à l'âge de 89 ans. L'écrivain hispano-péruvien était connu pour être l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre comme La ville et les chiens ou Conversation dans la cathédrale. Le gouvernement péruvien a décrété un jour de deuil. Aujourd'hui, les drapeaux des bâtiments publics sont en berne. Tout de suite, la Bourse de Paris avec vous, Sylvie Laubert. Bonjour, quelle est la tendance à l'ouverture?
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Eh bien, le CAC 40, curieusement, ouvre en hausse. Eh oui, plus 2%, 7240. Alors pourquoi cette petite euphorie? Eh bien, c'est toujours la guerre commerciale qui domine l'actualité en Bourse. Et cette fois, le nouveau revirement de Donald Trump va plutôt dans le bon sens. L'administration américaine a décidé d'exempter de droits de douane les smartphones et les ordinateurs, de peur de trop pénaliser les consommateurs américains. Donald Trump a néanmoins déclaré hier soir qu'il annoncerait cette semaine de nouvelles taxes sur les semi-conducteurs importés aux États-Unis. Alors, ce matin, les investisseurs se sont rués sur les fournisseurs japonais d'Apple. Le secteur en forte hausse a permis à Tokyo de terminer sur un gain de plus de 1%. Et on attend aussi que les valeurs de la tech américaine soient très entourées à Wall Street tout à l'heure. Les chiffres du commerce extérieur chinois ont été communiqués ce matin. Les exportations ont bondi, ce qui a soutenu l'excédent commercial chinois. Dans l'agenda du jour, on attend les publications trimestrielles de 2 grands noms de la cote. En France, LVMH, après la clôture, et aux États-Unis, Goldman Sachs. Le calme est revenu sur le marché obligataire. Dans l'échange, eh bien, le dollar reste faible face au yen et à l'euro. Le pétrole est stable. Et enfin, l'once d'or demeure très recherché. 3 232 $. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
Merci beaucoup et la suite de la matinée sur Radio Classique, c'est avec vous Franck Ferrand.
Et oui, chère Chloé, que diriez-vous d'aller rechercher l'Eldorado ?
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Quito, qui aujourd'hui est en Équateur. Vous voyez, on est tout à fait à l'ouest de l'Amérique latine, hein, du côté de l'océan Pacifique, en février 1541. Et un jeune Espagnol, enfin un jeune, il a 39 ans exactement, il est en train de quitter la ville à la tête d'une expédition, grande expédition, il se dirige vers l'Est. Il s'appelle Gonzalo Pizarro, son nom vous dit quelque chose bien sûr, puisqu'il s'agit du petit frère du grand conquistador, de Francisco Pizarro, le gouverneur de Cusco, qui a complètement détruit l'Empire Inca 10 ans plus tôt, et qui l'a fait au nom du roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire, Charles Quint. Francisco a nommé son frère, a nommé Gonzalo, gouverneur de Quito. Il lui demande de mener maintenant une expédition. Vous connaissez l'obsession des Espagnols, bien sûr, découvrir de l'or. On a besoin d'espèces métalliques en Europe et notamment en Espagne. Il s'agit de découvrir le pays d'un roi qui, selon un certain nombre des légendes indiennes qu'on a pu collecter, se baigne dans un lac d'or, ce roi. Il en ressortirait tout doré, un roi que les Espagnols appellent d'ailleurs le doré. Et comment dit-on le doré en espagnol ? El Dorado. Voilà l'origine de cet El Dorado qu'on recherche. De l'or donc, mais aussi des épices, tout ce qu'il peut y avoir de précieux, notamment de la cannelle, dont si on pèse la cannelle, hein, au poids, ça vaut encore plus cher que l'or. On va chercher tout ça dans une région qui est au-delà de la cordillère des Andes, vers l'est donc, en redescendant dans une grande forêt dont on ne connaît pas encore ni l'étendue ni la conformation. On sait qu'il y a des fleuves là-dedans, tout ça est habité bien entendu, région qu'on appelle la Canela, tout aussi légendaire et fantasmée que l'Eldorado lui-même. Les Espagnols poursuivent toujours ces espèces de mirages qui ont été promis par Christophe Colomb, que les Indiens entretiennent pour se débarrasser des envahisseurs et pour les envoyer plus loin, un pays où les Incas eux-mêmes ne se sont pas beaucoup aventurés à cause des difficultés naturelles, et notamment les Andes qui sont là, qui se dressent, et puis ces forêts terribles. L'expédition se met donc en branle vers l'Est, 200 conquistadors espagnols, tout en cuirasses avec leurs épées, leurs fusils. Ils sont accompagnés de 4000, je dis bien 4000 Amérindiens qui sont là, ben eux sont les porteurs, hein. Ils sont là pour les provisions, pour porter les munitions, encadrer 4000 moutons, porcs et lamas, 2000 chiens féroces qui ont été dressés au combat et qui sont là en vérité pour garder ces Indiens qu'ils terrifient littéralement. C'est une expédition à haut risque. 3 ans plus tôt, une tentative du même ordre s'était soldée par la mort de presque tous les hommes. Morts par toutes sortes de violences, morts de faim, mort de maladie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et déjà, dans les Andes, commence l'hécatombe. 200 Amérindiens vont mourir de froid. Alors, quand on dit de froid, beaucoup sont morts en vérité sous les coups des Espagnols, hein. Ils ont été punis, jetés en pâture aux chiens. Pour ces Incas, la redescente de l'autre côté des montagnes, la redescente dans la forêt est encore pire. Ils ont du mal à supporter cette chaleur, cette humidité terrible, une pluie permanente. On est dans des marais inextricables, avec des rivières. Il y a de l'eau partout et de la boue, des nuées de moustiques et de toutes sortes de bestioles. Même pour les Espagnols, qui sont très endurcis, très habitués aux pires conditions, c'est terrible. Ils sont là avec tout leur barda, hein, ces explorateurs. Tout ce qui est en fer rouille, bien sûr, les outils, les armes, les chevaux s'enfoncent. Ils sont collés à la glaise, ils trébuchent. Les cavaliers doivent mettre pied à terre, ou plutôt pied dans l'eau, parce qu'on est en train de longer le fleuve Coca qui déborde de partout. Et pendant 2 mois, on se fraye comme on peut un chemin dans cette forêt aqueuse, à la recherche des épices. Alors on va bien trouver quelques arbustes qui ressemblent à des cannelliers. En fait, ce sont des magnoliacées qui sont disséminés ça et là à plusieurs kilomètres de distance et entourés de milliers d'autres essences. C'est pas du tout ce qu'on espérait, hein. C'est pas du tout la profusion de cannelle à laquelle on s'attendait, pas de Canela, pas d'Eldorado non plus, ce que j'ai besoin de vous dire. Et un jour, les explorateurs tombent sur des Amérindiens, d'autres donc, hein, qui viennent de tribus vivant, elles, dans la forêt. On capture ces autochtones, on les interroge, où sont les épices, où sont les vallées, où sont les plaines fertiles ? C'est un historien de l'époque, Pedro Cieza de León, qui, 10 ans après l'expédition, racontera tout ça dans l'Histoire des guerres de la Nouvelle-Espagne, document très important. Je le cite. Alors Pizarro, on parle bien de Pizarro le frère, hein, Pizarro ordonna d'attacher les indigènes à des roseaux croisés avec des bâtons, comme des fourchettes, placées au-dessus du feu. Ils furent tourmentés, poussant de grands hurlements, dans l'espoir qu'ils confessent la vérité. Ils déclarèrent « Comment nous tuez-vous avec si peu de raison, puisque nous ne vous avons jamais vu et que nos parents n'ont pas mis les vôtres en colère? Voulez-vous que nous vous mentions, que nous vous disions ce que nous ne savons pas ?» Si Pizarro ne les fait pas brûler, il les jette aux chiens. Tout ça est d'une violence qu'on peut difficilement imaginer. Hein. Et jusqu'au jour où un chef de tribu dit « Oui, plus loin, vous allez trouver ce que vous cherchez. » C'est ça qu'on voulait entendre, en fait. Et voilà qu'on va monter le fleuve dans l'espace. Évidemment, l'idée des Amérindiens, c'est de faire fuir les Blancs un peu plus loin, bien sûr. Mais « Allez là-bas, dit-il, en descendant le fleuve !» Et on voit nos explorateurs qui repartent et qui vont avancer le long d'un nouveau fleuve qui s'appelle le Napo. Ils vont périr là par centaines. Ça fait 10 mois maintenant que cette expédition est partie. Et sur les 4000 Indiens qui étaient là au départ, qui étaient partis de Quibto, dites-vous que 3000 ont péri. Et sur les 240 Espagnols qui étaient là au départ, il y en a 140 qui ont trouvé la mort. Et on n'a plus de provisions, on est incapable de survivre dans cette forêt. Ce serait quand même peut-être le moment de rebrousser chemin. Et Pizarro va confier une mission à celui qui est son bras droit, à son second, qui s'appelle Francisco Orellana. Ils vont construire un canot, un brigantin avec pour 60 hommes. Et ce canot d'Orellana va partir en éclaireur. Il devra aller chercher d'abord de la nourriture pour tous. Il faudrait trouver un village, il faudrait trouver des plantations. Et puis, s'ils arrivent à trouver, toute la troupe pourra continuer. Et s'ils n'y arrivent pas, il sera toujours temps de rebrousser chemin, de rentrer. C'est donc ce qu'on doit pouvoir qualifier de mission de la dernière chance. Il y a là quelque chose qui relève maintenant de la survie. En tout cas, Orellana et ses hommes doivent être revenus dans les 12 jours. Voilà le temps qui leur a été imparti. Et le 26 décembre, lendemain de Noël 1541, à bord donc de ce brigantin, qui est une sorte de gros canot, assez robuste hein, quand même, petit mais robuste, il s'appelle le San Pedro, Orellana et ses hommes se laissent donc porter par le courant du Rio Napo. Orellana a emmené avec lui un prêtre dominicain, le frère Gaspar de Carvajal. Le rôle de Carvajal, c'est de chroniquer l'expédition à partir de cette division de la troupe, à partir du moment où on en a décidé d'envoyer en éclaireur hein, cette escouade. Ça va être, c'est le titre du récit de Gaspar de Carvajal, la relation de la première descente du grand fleuve des Amazones. Vous allez voir pourquoi on parle des Amazones. Un extrait de la deuxième symphonie de Carlos Chavez par l'orchestre New World Symphony sous direction de Michael Tilson Thomas.
Vous écoutez Radio Classique.
C'est pas un fleuve tranquille, hein, ce Napo. Il y a des courants, des tourbillons, ça afflue de toutes parts, avec carrément des arbres qui sont déracinés, qui tombent, qui viennent là flotter dans le cours même du rue. Le troisième jour de navigation, il y a carrément un tronc qui vient heurter le brigantin et qui ouvre une voie d'eau. Il faut écoper, il faut calfater. Le canot a tendance à s'enfoncer, mais par chance, il n'était pas loin de la rive, alors on va réussir à le mettre au sec. Bref, on a de très peu évité la catastrophe. Il faut réparer et reprendre la navigation un jour, deux jours, vous imaginez. Dit comme ça, bon, mais quand vous voulez passer les journées interminables en question, c'est terrible. Et trois jours sans nourriture, il n'y a pas de village, toujours rien. Et une semaine passe depuis qu'ils ont quitté Pizarro et le reste de l'expédition. S'ils veulent être revenus dans les 12 jours, ça veut dire que maintenant, il faudrait remonter le courant, là. Parce qu'on a dépassé la moitié du temps imparti. Seulement, le 1er janvier 42, s'élève de la forêt un bruit assez étrange, un bruit rythmé, ça fait comme des battements. Oui, en écoutant bien, ce sont des tambours indiens, ce qui veut dire qu'il y a des habitants, qu'il y a des provisions quelque part. Et deux jours plus tard, le navire va enfin accoster devant un village. Les habitants agitent des armes, les Espagnols se sont préparés, ils attaquent, ils mettent les villageois en fuite et prennent le village d'assaut. C'est bourré de denrées, ça tombe bien. Et quelques heures plus tard, les villageois reviennent, bien sûr. Sauf que Orellana n'est pas Pizarro. Plutôt que de passer tous les Indiens par le fil de l'épée, lui préfère essayer de discuter, de négocier. Il a noté des mots de dialecte qui lui permettent de discuter un peu avec eux. Et maintenant, il peut même communiquer avec le chef de la tribu. Après Dieu, sa compréhension des dialectes fut le facteur qui nous empêcha de succomber, écrit Carbajal. Orellana réclame des vives, il veut de l'assistance et le chef accepte de les aider, ce qui fait qu'ils sont sauvés. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, quoi faire maintenant ? Orellana était censé rapporter des vivres à Pizarro et à tous les hommes qui l'attendent, hein, plus haut, là-haut, mais évidemment il ne va pas pouvoir les ravitailler. Selon le récit de Carbajal, les hommes d'Orellana refusent de remonter le fleuve à contre-courant. Ils exigent de descendre ce fleuve le plus loin possible, pourquoi pas jusqu'à l'océan Atlantique. Et Orellana n'a pas la force de s'y opposer. Il va céder. C'est la version qui, en tout cas, est destinée à se protéger d'une accusation de trahison. Parce que si ce n'est pas le cas et s'il n'y a pas eu ce coup de force de la troupe, si je puis dire, ça veut dire que Orellana aurait trahi la mission qui lui a été confiée. Il va quand même envoyer trois hommes en arrière informer Pizarro. Et ceux-là, alors, on les retrouvera jamais. Hein. Orellana abandonne Pizarro, qui, lui, sans nouvelles, part. Il repart en direction de Quito. Vous avez bien compris que c'est un guerrier, Pizarro frère, si je puis dire. Alors qu'Orellana, lui, est un véritable explorateur qui continue sur son air. Avec ses hommes, il va déboucher sur un autre fleuve qui est encore plus grand. Il était si large qu'on croyait naviguer sur un océan, raconte le chroniqueur. Et c'est maintenant le territoire du grand chef Aparia. Les envoyés d'Aparia offrent des oiseaux, des tortues. On va les guider jusqu'à un village. Aparia propose le gîte et le couvert jusqu'au départ. Ils en profitent pour fabriquer un second brigantin qui est nettement plus solide que le précédent et qui est plus grand surtout. Carbajal décrit les rives du fleuve, une succession de villages avec des rues, des places. Il y a même des fortifications de bois, tout ça relié par des espèces de chemins comme des routes. Et puis aussi des plantations qui sont cultivés avec soin. Bref, c'est une autre civilisation qu'on est en train de découvrir. Le 3 juin 1542, Carbajal décrit un phénomène extraordinaire. Les eaux noires d'un nouveau fleuve viennent rejoindre les eaux jaunes du grand fleuve sans se mélanger. Et ça dure comme ça pendant des lieues. Orellana donne un nom à ce fleuve noir, c'est le Rio Negro. C'est pas très compliqué comme nom. À la fin du mois de juin, on les voit qui longent une rive qui de nouveau est très peuplée. Là encore, il y a des villages avec des rues, des maisons, etc. Ils essaient de débarquer pour se ravitailler, mais cette fois, ils vont rencontrer un accueil hostile. Et ce qui les attaque, à leur grande stupéfaction, ce ne sont pas des guerriers. Enfin, il y a quelques guerriers, mais surtout, ce sont des guerrières. Des guerrières combattant si courageusement, écrit Carvajal, que les hommes à leur côté n'osaient pas leur tourner le dos. Sa description est étrange. Ces femmes sont très grandes et très blanches. Elles ont les cheveux longs, tressés, ramassés autour de la tête. Elles sont très membrues et vont nues. Seules leurs parties sexuelles sont couvertes. Elles portent l'arc et les flèches et combattent aussi efficacement que 10 Indiens. En vérité, plusieurs d'entre elles firent pénétrer leurs flèches d'un empan dans l'un des brigantins. Bref, nos brigantins ressemblaient maintenant à des porcs-épics. Vous imaginez ces navires, il y en a deux maintenant, qui sont couverts des flèches de ces guerrières extraordinaires. Le frère Gaspard de Carvajal va d'ailleurs recevoir lui-même une flèche dans la cuisse. Plus tard, il en aura une autre dans l'œil. Ils viennent de pénétrer donc sur le territoire de la reine des Amourians. Les Espagnols ont capturé un prisonnier qu'ils interrogent. L'homme explique, selon Carvajal, bien sûr, que ces femmes occupent 70 villages, 100 hommes. Comment est-ce qu'elles font pour être enceintes, demandent les conquistadors. Et l'Indien leur répond, à certaines époques et lorsqu'elles en éprouvent le besoin, ces femmes ont commerce avec des hommes originaires d'une certaine province qui jouxte leur pays et elles sont gouvernées par un puissant seigneur. Que ces hommes sont blancs, sans barbe, et qu'ils vont les retrouver pour avoir des rapports avec elles, puis ils s'en vont. Celle qui était alors enceinte tuait, disait-on, le fils qu'elle mettait au monde ou l'envoyait à leur père. Si elles accouchaient d'une fille, en revanche, elles l'élevaient en manifestant une grande joie. Incroyable, on croirait être dans le récit d'Homère, hein, ce sont les Amazones de l'Iliade. Marcio Souza rappelle dans Amazonie, qui est paru aux éditions Métallier, c'était en 2019, que je le cite, « Cette histoire narrée par l'Indien est la même qui serait racontée à Sir Walter Raleigh et répétée 200 ans plus tard au scientifique Charles-Marie de la Condamine, ainsi qu'à Richard Spruce en 300 ans plus tard. Ces femmes guerrières commandées par une matriarche est un mythe commun au peuple du Rio Negro, du Moyen Amazone et de l'Orénoque, d'où peut-être la présence constante de cette histoire au fil des siècles avec une force capable de convaincre l'Académie, la Condamine, Spruce et l'historien Robert Soudet, sans parler des ambiguïtés d'Alexander von Humboldt à ce sujet. Bref, vous aurez compris l'origine, en tout cas, du nom du fleuve Amazone. Quelques mesures du Sensemaya de Silvestre Revueltas, compositeur mexicain. L'orchestre des jeunes Simon Bolivar du Venezuela était sous la direction de Gustavo Dudamel.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ce sont des flèches empoisonnées au curare qu'envoient les guerrières. Entre parenthèses, c'était réservé normalement à la chasse. Ça montre la peur que les armes des conquistadors inspirent aux autochtones. Et les explorateurs fuient sous les flèches, sauf qu'à l'embouchure du fleuve Taparos, leur petit brigantin là, se fracasse contre un tronc et coule. Orellana a la présence d'esprit de diviser à ce moment-là la troupe en deux. Il y en a une partie qui hisse le canot à terre pour essayer de le réparer et l'autre moitié qui forme un cercle défensif autour du chantier, ce qui va permettre de réparer, de rembarquer, de repartir et de parvenir comme ça à la limite du territoire de la redoutable reine. Et là, on a envie de dire « ouf, les attaques cessent ». Quelques jours plus tard, il va falloir s'échouer sur une autre rive, se reposer, rendre les brigantins un petit peu plus robustes. On observe à ce moment-là l'élargissement du fleuve. On n'est plus très loin de l'océan Atlantique et pendant 2 semaines, les conquistadors vont construire des mâts, coudre des voiles, rehausser le pont et puis reprendre le courant. Et quand ils arrivent aux abords de la mer, ils doivent faire face cette fois au courant des marées, bien entendu, qui les repousse vers l'intérieur. Une espèce de mascarée à chaque fois qui les repousse. Bref, le 29 août 1542, ils arrivent à franchir l'estuaire et ils sont dans l'océan. Sauf que maintenant, il n'y a plus d'eau douce, il n'y a pas de provisions, ils n'ont pas de boussole avec eux, aucune carte, est-ce que j'ai besoin de vous dire. On navigue comme on peut, au petit bonheur la chance, en se dirigeant d'après les étoiles vers le nord. Il faut encore lutter contre les courants du golfe de Paria qui a tendance à ramener nos navigateurs vers le sud. Ça va durer encore des semaines sur un bon millier de milles nautiques. Et puis finalement, les voilà qui accostent sur une île qui est aujourd'hui une île vénézuélienne à Cubagua. Une île qui a été colonisée 40 ans plus tôt. On est devant le petit port de pêche d'un nom qui d'un seul coup leur fait du bien. Ça s'appelle la Nouvelle-Cadix.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On va pouvoir les nourrir et les hydrater et les soigner, les hommes d'Orayena qui viennent de traverser donc l'Amérique d'ouest en est, sur 4800 kilomètres. Il s'agit maintenant d'imposer, pour Orayena, d'imposer sa version des faits, de tirer la gloire de l'exploitation de l'exploration de ce grand fleuve, qu'il va appeler le Rio de las Amazonas, le fleuve des Amazones. Il rentre à Madrid, va devoir subir les foudres d'une enquête royale, qui conclut que de toute façon, il n'avait pas d'autre choix que descendre le fleuve. Il n'était pas question d'aller secourir Gonzalo Pizarro. Orayena va obtenir le titre de gouverneur pour tous les territoires entre guillemets, découvert, et il tentera de retourner là-bas à la tête d'une escadre de 3 navires. Il y en a un seul qui arrivera à l'embouchure du fleuve. Il se perdra dans un dédale de l'estuaire et au cours d'un combat avec une tribu caribe, Orayena va recevoir une de ses flèches empoisonnées auxquelles jusqu'alors il avait réussi à échapper. Il va en mourir. On estime aujourd'hui que l'Amazonie était peuplée de 10 millions d'habitants. La route ouverte par Orayena va provoquer la disparition presque complète de ces populations.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Pierre Anquetin et bonjour à Christian Morin.
Comment allez-vous, mon cher Franck?
Très bien, ma foi, vous aussi apparemment.
Vous ne changez pas, je vous regarde de jour en jour, en 24 heures, le visage est complètement reposé. Vous avez passé un bon week-end?
Oui, très bien, j'ai écrit, j'ai travaillé.
Ah ben oui, quand même, oui, un petit peu de tenue. Hein. Alors, cet après-midi, après les conquistadors qui vous permettent de remonter le courant de l'histoire, contrairement aux marins, mais c'est moins dangereux peut-être.
Oui, c'est vrai, objectivement.
Encore que, on ne sait jamais. Et cet après-midi, vous allez parler d'une comédienne, d'une vie assez tragique, et surtout parce qu'il y avait à cette époque-là une excommunication des artistes chers à Voltaire, donc c'est Adrienne Lecouvreur.
Mais oui.
Femme qui a collectionné les amants, dit-on.
Oui, et les bons mots.
Et les bons mots. Vous nous raconterez tout cela cet après-midi à 14h, et nous aurons le plaisir de nous retrouver dès demain matin. Bonne journée.
Avec joie.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boutteville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservé dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Cuisine Ixina présente, la cuisine à 2 990 € avec le plan 3D offert.
Super ce plan, on se projette bien là.
Ouais, je te vois déjà ranger la vaisselle.
Ah, on doit pas avoir le même plan.
Ixina, des offres qui ont tout compris à la vie. Voir conditions sur Ixina.fr. Ixina.
Radio Classique et la Salgavo présente Ravel ou le voyage imaginaire. En compagnie de Franck Ferrand et du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, venez vivre entre récits et musique toute la féerie et l'émotion envoûtante de l'univers de Maurice Ravel. Ravel ou le voyage imaginaire. Avec Franck Ferrand et Jean-Frédéric Neuburger, un concert Radio Classique, mercredi 4 juin, salle Gaveau, à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
La Fondation Orange fait vibrer la musique et les voix sur tous les territoires. Pour découvrir les actions de la Fondation Orange pour la culture, rendez-vous chaque mardi et jeudi à 14h59 sur Radio Classique.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Le Festival de Saintes vous embarque pour un voyage musical de 8 jours aux quatre coins du monde classique. Avec un récital lyrique de compositrices italiennes du 16e siècle, un détour flamand par Ophélie Gaillard, Bach et Lotti à l'heure suisse avec Liangeli Genève, les arts florissants en territoire allemand et les grandes heures symphoniques de Beethoven à Dvorak. Le Festival de Saintes, un univers musical à vivre intensément du 12 au 19 juillet. Détails sur abbayeauxdames.org.
Amazon offre à tous les nouveaux parents un mois supplémentaire de congés payés. Comme Antoine qui peut ainsi s'occuper de sa fille. Et pour lui, ce petit gazouillis est le plus beau son au monde. Presque aussi beau que le son de son sommeil. Finalement, c'est peut-être ce duo-là le plus beau son du monde. Amazon offre aux nouveaux parents un mois supplémentaire de congés payés, sous condition d'éligibilité.
midi, tous classiques, avec Christian Morin sur Radio Classique.
Et une intégrale à vous annoncer, une intégrale musicale, l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, enregistrée pour la seconde fois par Jean-Efflam Bavouzé. C'est un album de double CD Chant d'Ours, pour vous dire bonjour ce matin, Ravel, quoi de mieux, pour commencer la journée. 20 ans après sa première intégrale Ravel chez MDG, c'est chez Chant d'Ours que cet album est sorti. Nous allons écouter tout de suite la sonatine pour piano dans sa totalité, avec le premier mouvement, le deuxième mouvement et le final.
Thank you.
forfait de la semaine. Nouveau, vous le découvrez ce matin avec nous, Maurice Ravel, l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, enregistrée pour la seconde fois, je vous le disais en préambule, par Jean et Flamme Bavouzé, un album, un double album chez Chandos, 20 ans après sa première intégrale. Jean et Flamme Bavouzé a un prénom un petit peu curieux peut-être, mais ça vient du Saint-Breton et Flamme, puisqu'il est né lui-même à Lannion, et c'est dans un lieu dit à Plestin-les-Grèves, non loin de sa ville natale, donc de Lannion, et il porte le nom de Saint-Eflamme. Il passe toute son enfance au 8 rue Gabriel-Pierné à Metz, où il effectue toute sa scolarité, et il va étudier bien sûr au conservatoire. Alors, dans cet album consacré à Ravel et l'intégrale de l'œuvre pour piano, il y a aussi des pièces assez rares. Par exemple, un menuet composé en 1904, récemment publié, et probablement issu d'un projet complètement inabouti par Ravel. Écoutez ce menuet, Jean-Eflamme Bavouzé. Ravel, composé donc en 1904 sur l'idée d'un projet probablement inabouti. Alors, après Ravel, on va retrouver Jean-Eflamme Bavouzé avec Gabor Takacs-Nagy et le Manchester Camerata, pour le concerto pour piano et orchestre numéro 11 de Joseph Haydn, le premier mouvement. En effet, car Jean-Eflamme Bavouzé a enregistré tous ces concertos pour piano de Haydn et de Mozart, avec ce chef d'orchestre au pupitre, qui va diriger son orchestre de chambre du Festival de Verbier lundi prochain, à 21 avril à 20h30, pour le week-end de Pâques, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec la violoncelliste Julia Hagen, en soliste du concerto d'Elgar, pardon. Également au programme l'ouverture de Coriolan et la 7e symphonie de Beethoven. Voilà, autour du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui a commencé ce vendredi dernier, et qui fait fleurir sur notre antenne de très très beaux concerts. Allez-y, déplacez-vous, c'est toujours un moment merveilleux à partager avec les musiciens et avec toute l'équipe du festival. Joseph Haydn, donc Jean-Eflamme Bavouzé, le premier mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 11. Thank you. Haydn, avec le concerto pour piano et orchestre numéro 11, Jean-Yves Flambavouzé au piano, avec la direction de Gábor Takács-Nagy à la tête de la Manchester Camerata. Dans un petit instant, le flash de 10 heures déjà, et puis, entre les publicités, nous allons découvrir le nouveau trio classique de la semaine.
Connaissez-vous le podcast Les Histoires en Musique? Laissez-vous enchanter. Élodie Fondacci vous raconte des histoires sur les plus belles musiques classiques.
Scheherazade s'interrompit et jeta un coup d'œil vers la fenêtre. C'est l'aube, sire.
Retrouvez Scheherazade et bien d'autres histoires en musique d'Élodie Fondacci sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Renaud.
Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 en France. Avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybrid des 320 euros par mois. 2 mois de loyer offert.
En 2024, source 3A Data selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybrid 145 euros option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert si accordiac. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, cherchez une tondeuse, trouvez la Makita sans fil à seulement 135 euros. Se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout, en avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro, spécial déco, en vente actuellement.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. Boston, New York, la Nouvelle-Écosse. Cet automne, je vous attends avec Radio Classique sur un yacht Ponant raffiné pour une croisière de rêve. Avec la grande Chani Di Luca et John Gade au piano, le prodige du violon Luca Faolisi, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, la clarinette star de Pierre Génisson, la trompette feu de Lucienne Renaud-Davary et en option la comédie musicale Chicago au cœur de Broadway.
Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Un secret inavouable, une passion interdite, une farce endiablée. Dans Il Trittico, œuvre à trois brefs opéras, Puccini excelle aussi bien dans la comédie que dans le drame. Portés par la saisissante soprano Asmik Grigorian, ses airs, souvent entendus au cinéma, sont à découvrir à l'Opéra Bastille du 29 avril au 28 mai. Réservation sur opéradeparis.fr.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Trio classique.
5 propositions à vous faire pour ce nouveau trio classique. Est-ce qu'il y a quelques notes de Rameau? Est-ce qu'il y a des notes de Michael Haydn? Il avait un frère. Ou encore de Joseph Haydn. Ou Lully, par exemple, radioclassique.fr. Ou Charpentier, bien sûr. Alors, a gagné cette semaine un CD consacré à Handel et Purcell, avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, dirigé par Gaëtan Jarry, proposé par l'Opéra de Versailles Spectacle. Monsieur de Saint-Georges, rival de Mozart, raconté par Alain Guédé chez Actes Sud. Le dictionnaire amoureux de l'automobile, par Lucas de Méo chez Plon, le dernier thriller de Bernard Minier chez XO Éditions, le thriller s'appelle H, tout simplement, et un abonnement d'un an au magazine Notre Temps. Bonne chance, et on écoutera bien sûr le trio classique une deuxième fois avant midi.
Trio classique.
Mais, chez votre canapé, qu'est-ce